franceinter.fr.
Yassine, كم كيلو الى الحدود؟
الحدود تقريبا 7-8 كيلو.
Donc on est à peu près à 7 km de la frontière.
Bonjour. Depuis un certain nombre d'années, la Turquie travaillait à se façonner une image de puissance régionale. Elle voulait se présenter comme un pays apportant de la stabilité dans cette région du monde, parfois mouvementée, et comme un modèle de conciliation entre les valeurs démocratiques et celles de l'islam. Les printemps arabes, puis surtout la guerre dans un pays voisin, la Syrie, sont venus troubler cette image. Le doute s'est installé et on se demande maintenant quel rôle cherche à jouer exactement ce grand pays de 75 millions d'habitants qui frappe à la porte de l'Europe. Alors que la Turquie entretenait auparavant de bonnes relations avec Bachar el-Assad, elle a opéré un revirement et parié sur la chute du président syrien. Pour ce faire, elle a soutenu plus ou moins directement les divers groupes d'opposition, même les plus radicaux comme État islamique, jouant la carte de l'islam sunnite contre le régime alaouite de Damas. Aujourd'hui, Ankara semble paralysée et redoute surtout que le conflit ne relance la question kurde, qui n'est toujours pas réglée en Turquie même. La Turquie dans le piège syrien, c'est un reportage de Christian Chény.
Interception, le magazine de la rédaction.
On arrive à la frontière. Voilà. Donc la frontière est marquée par des tas de sable, de ciment. Donc c'est un marquage très léger. Et donc la frontière est juste de l'autre côté. La Syrie est juste de l'autre côté. Et là on longe la frontière pour se diriger sur le poste frontière turc. Oui, il y a quand même un barbelé. Hein. Et puis il y a quelques postes militaires de temps en temps. Voilà, donc là on arrive au point de passage côté turc. Le point syrien de passage, Bab el-Ahwa, se situe à 3 km. Et entre les deux, il y a un no man's land. C'est ça, donc Yassine de l'ONG IHH nous explique que donc, les camions turcs arrivent ici, passent ce point de frontière, entrent dans le No Man's Land et puis ils vont décharger leur cargaison qui va être transbordée à bord de camions syriens qui ensuite passeront au Bab el-Ahwa, le point de contrôle syrien, et qui ensuite distribueront l'aide alimentaire, l'aide d'urgence aux populations civiles syriennes de l'autre côté. كم شحنات كل يوم؟
يعني 10 شحنات 20 بعضهم ب
50 Voilà, environ 10 à 20 camions d'aide passent tous les jours ici par ce point frontière. La frontière est ouverte aujourd'hui, donc les gens arrivent. Il y a évidemment beaucoup de camions, mais des familles qui arrivent en minibus, en voiture. Alors il y a des buvettes, ils achètent de l'eau, de quoi manger, et puis après ils vont repartir en Turquie. Donc là, les Syriens arrivent côté turc, des taxis les attendent, ils chargent les bagages. Et puis après, ils vont partir en Turquie, soit pour rejoindre la famille, soit pour rester plus longtemps, peut-être se reposer aussi, pour fuir un peu le chaos et la violence côté syrien. Et là, donc, les chauffeurs de taxi turcs essaient de récupérer tous les Syriens qui montent à bord et qui repartent côté turc. ليش تجي ولا مرحبا من انت
انا سوري دكتور برا بكور من سوريا
من وين بالضبط
من ادلب سراقب
voilà donc c'est un docteur Docteur Barak, qui vient de Idlib. Qu'est-ce que tu as en Turquie? Pourquoi il vient en Turquie?
Je viens de Moukhabili dans le voyage allemand, pour aller en expérience comme il y a. Moukhabili n'a pas un visa.
Ah oui, d'accord. Yeah. Donc il va passer un test pour avoir un visa à Ankara, dans le voyage d'Ankara. عشان بدك تركت سوريا
تركت سوريا مشان كفي دراستي في المانيا
c'est ça donc il veut quitter la Syrie pour terminer ses études en Allemagne كيف العبور الحدود
كويس
apparemment le passage à la frontière s'est bien passé et كيف الوضع داخل
وضع داخل في عندنا في سوريا جوا سوريا سيء كثير
ديك la situation en Syrie est très très mauvaise وبإدلب خاصة
بإدلب في طيران براميل بومب سوخوي ميغ
c'est ça il dit que À Idlib, il y a des bombardements avec des barils de TNT, des MiG, des Sukhoi qui bombardent régulièrement la ville. Où est-ce que Ahlak Dakhel ?
Il y a Ahlak Dakhel.
Et donc sa famille est à l'intérieur. Où est-ce que tu as acheté le visa ?
Après, nous sommes en Allemagne. Acheté Ahli, Zojti.
Ça, voilà.
Tous les enfants.
Il dit qu'une fois qu'il aura le visa en Allemagne, eh bien, il fera venir sa femme. Où est-ce que tu as acheté ?
Il y a un petit Teflin.
Il a deux enfants. Bint ou Sabi ?
Bint ou Sabi.
Une fille et un garçon. و انت حزين شوي ولا
كثير انا فقدت اثنين من اخوتي براميل
اوي il est évidemment très triste de quitter et puis en plus il a perdu deux frères qui sont morts dans un bombardement au baril de TNT
واحد طبيب وواحد صيدلي كمان
un qui était médecin et l'autre qui était pharmacien
Aa buna bir kişi lazım haydi yürüsün abi
ağır kişi
İbrahim bir kişi yürüt haydi
L'ONG islamique IHH est la plus importante en Turquie. Créée au moment de la guerre en Bosnie, elle s'est rendue célèbre en affrétant en mai 2010 une flottille pour briser le blocus israélien de Gaza. Certains la considèrent comme le bras humanitaire du pouvoir islamo-conservateur du président Erdogan. Dès le premier jour de la révolte en Syrie, IHH s'est mobilisé pour venir en aide aux réfugiés fuyant la répression du régime de Bachar el-Assad. Sa principale plateforme logistique est située à Rehanle, à 10 km de la frontière syrienne. Nous allons visiter ses entrepôts.
Là, on est devant le sac d'aide humanitaire, le colis d'aide humanitaire pour une famille. Donc, il y a des pâtes, des pois chiches, du riz, des lentilles, de l'huile, des olives, du hummus, du pain. Et puis l'autre côté, il y a le côté propreté hygiène avec des brosses à dents, du savon, des rouleaux de papier hygiénique et puis du shampoing. Voilà, il y a aussi des grands paquets de charbon, de bois qui vont distribuer pour l'hiver, pour se chauffer. Il va partir dans quelques semaines pour l'hiver, quoi. Donc ça va être affrété sur des camions. D'accord, donc ça c'est aussi des rouleaux de tissu pour que les gens se fassent des vêtements, des rouleaux de tissu qui sont aussi acheminés pour les Syriens de l'intérieur. Voilà, et là, alors là il nous montre, là ce sont des petits blousons pour les enfants. Voilà. Parce que l'hiver est souvent rude. Dans cette région, il pleut beaucoup, il fait très froid. Et donc la période hivernale est redoutable pour les réfugiés. C'est ça, voilà, il y a aussi des petits radiateurs, il y a aussi évidemment des médicaments qui sont sur des palettes. Il y a des couvertures, il y a aussi des couvertures. En fait, c'est des couvertures qu'ils ont récupérées dans toute la Turquie. Les gens donnent leurs couvertures. Donc les couvertures vont être lavées. Et puis après empaqueté et ensuite acheminé en Syrie. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut ?
هنا اخي الاغراض التي نستعملها في المخيمات في المخيمات في تحت هذا
D'accord. Voilà. Donc en fait là-haut c'est tout l'équipement pour les tentes dans les camps de réfugiés, donc ces énormes rouleaux de tapis de sol qui vont servir dans les camps de tentes où s'entassent les réfugiés syriens de l'autre côté de la frontière.
Voilà.
D'accord. Donc là, effectivement, on est devant un énorme container bleu en plastique qui permet de traiter l'eau, la distribuer, pour évidemment donner de l'eau propre, potable, aux réfugiés dans les camps. Des générateurs. Et il y a même des machines à laver. Et tout ça, c'est donc c'est distribué par IHH. Sans ma personne travaille sur le site, il y a aussi une boulangerie industrielle que nous allons maintenant visiter. Alors là, on arrive à la boulangerie industrielle. Ici, on produit 170 000 pains par jour. 160 000 sont distribués en Syrie et 10 000 ici pour les besoins locaux à Réhanle. Salam alaikum. Ça. Donc dans chaque sac, il y a à peu près 9 pains syriens. Donc ce pain, il est d'abord en priorité destiné aux camps de réfugiés. C'est ça. Alors la particularité de ce pain, c'est que quand on le découpe, eh bien, il peut se conserver une semaine. Il ne pourrit pas, il ne se dégrade pas, donc ça c'est important parce qu'il se conserve bien.
C'est
ça, ce qu'il nous explique, c'est que ce pain c'est vraiment exactement le même qu'en Syrie. C'est-à-dire c'est le pain que les Syriens consomment, donc c'est la même recette, c'est la même façon de faire. Et donc comme ça, il n'y a pas de décalage et comme ça, les Syriens peuvent manger leur pain, mais il est fabriqué ici, à Réhanle, en Turquie. Donc on va rentrer dans la boulangerie. Donc là, le pain sort du four sur un traîneau automatique, un tapis automatique, et les gens le trient, le mettent dans les paquets, donc des paquets de neuf. Et puis après, ils vont partir sur les camions. Ça, c'est du pain tout chaud. Qui sort du four. Et il est excellent. Depuis le début de la crise syrienne, qui a commencé en mars 2011, la Turquie a ouvert ses frontières pour accueillir les civils fuyant la répression du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on parle d'1,5 million à 2 millions de réfugiés syriens installés sur le territoire turc. Un fardeau pour le gouvernement d'Ankara qui a déjà dépensé environ 4 milliards de dollars pour les assister. L'ONG islamique IHH est chargée de distribuer l'aide humanitaire à l'intérieur de la Syrie. Son siège se trouve à Fatih, fief des islamistes turcs à Istanbul. Et nous allons rencontrer Izzet Şahin, qui est l'un des responsables de l'ONG IHH.
Actually, Turkey does not accept the refugees officially. And this is why Turkey.
En fait, officiellement, la Turquie n'accueille pas de réfugiés. C'est pour ça que les Syriens qui viennent en Turquie ne sont pas appelés réfugiés, mais invités. Officiellement, ce sont des invités. Mais en même temps, même si la Turquie n'accueille pas ces gens avec un statut officiel de réfugiés, elle leur a totalement ouvert la porte à cause des guerres en Syrie et en Irak. La deuxième chose qui est nouvelle en Turquie, c'est que ces invités syriens se sont vus accorder tout un ensemble de droits. Ils ont des permis de travail, ils peuvent travailler ici en Turquie. Les enfants peuvent aller dans les écoles publiques, avoir une éducation. Ils ont aussi accès aux centres de soins, aux hôpitaux, s'ils ont des problèmes de santé. Bien sûr, tout cela a un coût très important pour la Turquie qui a consacré plus de 4 milliards de dollars jusque-là, principalement sur ses propres ressources, avec seulement quelques centaines de millions d'aides. La population syrienne est devenue majoritaire dans certains villages ou certaines villes, et ça, c'est un sujet vraiment difficile.
Mais pourquoi appeler ces réfugiés des invités? L'ONU pourrait prendre en charge ces personnes.
Oui, mais c'est une autre question. C'est très sensible pour des raisons de sécurité. Quand des sunnites se réfugient en Turquie, il peut y avoir des djihadistes parmi eux. Si des Kurdes se réfugient en Turquie, il peut y avoir en leur sein des membres de groupes rebelles. Parmi les Alevis ou les Alaouites, il peut aussi y avoir des opposants à la politique turque en Syrie et ainsi de suite. Donc à cause de ça, la Turquie est très réticente à la venue d'ONG internationales sur son sol, parce qu'il y a déjà eu des coopérations entre les rebelles du PKK kurde et certaines de ces organisations.
International NGOs or the humanitarian organizations to come and serve in Turkey, but as an international NGO,
mais bien sûr, en tant qu'ONG nous-mêmes, nous pensons qu'il s'agit d'une erreur et que nous devrions autoriser les ONG internationales à intervenir tout en contrôlant qui fait quoi. Ça, c'est le travail du gouvernement. Il a bien sûr le droit et le devoir de savoir qui fait quoi sur son territoire. Mais je pense que la Turquie veut montrer qu'elle n'est pas comme le Liban ou comme la Jordanie. Elle veut montrer que c'est un pays fort, économiquement, politiquement, et qu'elle est capable de prendre en charge ses réfugiés dans les camps ou hors des camps.
Et par exemple, pour Kobané, qu'est-ce que vous faites? Vous aidez aussi les Kurdes qui se réfugient en Turquie?
Oui, bien sûr. Nous ne demandons pas aux gens leur papier, leur appartenance ethnique ou leur religion.
D'accord, mais est-ce que vous faites une différence pour les combattants du groupe État islamique? Parce que certains disent que leurs blessés viennent se faire soigner dans les hôpitaux turcs. Alors, vous faites une différence ou pas?
Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne peux pas vous dire s'ils viennent se faire soigner ou pas. Et si c'est le cas, je ne peux pas vous dire s'ils sont les seuls à le faire ou si les combattants kurdes du pays grec viennent aussi. Je ne sais pas quelle est la conduite quand une ambulance arrive avec quelqu'un de Kobani, d'Alep ou d'ailleurs en Syrie. Est-ce qu'ils leur demandent d'abord leur identité, leur ethnie, leur grade, etc. ou est-ce qu'ils ont simplement un réflexe humanitaire? Ils l'admettent à l'hôpital et ils le soignent. Vous savez, dans les circonstances actuelles, ce n'est pas très facile pour la Turquie de connaître l'identité exacte de ceux qui arrivent de Syrie. Vous ne pouvez pas dire que tel homme ou tel autre est djihadiste parce qu'il porte une barbe, par exemple.
Depuis le début de la crise syrienne, la Turquie est devenue la base arrière des groupes rebelles modérés, mais aussi des djihadistes qui se fondent dans le flot des réfugiés. Des hommes du Front al-Nusra et de Daesh, l'organisation État islamique, viennent se faire soigner, se reposer et même tenir des réunions avant de repartir au front, nous a confié un diplomate occidental à Istanbul. Aujourd'hui, la Turquie peine à absorber le nombre croissant de réfugiés, l'exil s'éternise et les relations entre les populations turques et syriennes se dégradent.
Personnellement, je suis très fatiguée. Nous pensions que ça va finir durant 2 ans, ok, 3 ans, mais maintenant, après 4 ans, et avec la coalition internationale, les attaques aériennes sur Daesh, l'État islamique, on ne sait pas. Comme vous savez, la coalition internationale a annoncé que les attaques vont continuer à peu près pour 3 ans, 4 ans. Alors ça veut dire que les choses ne vont pas mieux.
Il y a des gens qui disent que le risque même pour les Syriens qui se sont réfugiés ici, ils sont peut-être 1,5 million, ça serait peut-être de devenir les Palestiniens de Turquie. Est-ce que ça, c'est un risque, ça?
Bien sûr, c'est un risque. Comme vous saviez, quand la crise de Kobané a commencé, dans 48 heures, 300 000 Syriens sont entrés en Turquie. Et je connais beaucoup de Syriens ici qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont aucune carte de résidence.
Alors les Turcs parlent, ils ne parlent pas de réfugiés, ils parlent d'invités. C'est-à-dire que les Syriens sont des invités.
Le gouvernement, il parle de cette façon-là. Une partie du peuple turc, ils parlent de cette façon-là. C'est vrai, ils sont des invités et tout ça. Et ils les traitent très bien. Mais la vérité, il y a une autre partie qui ne nous traite pas comme ça. J'étais vraiment parfois maltraitée par des Turcs seulement parce qu'ils sachent que je suis syrienne. Je parle turc, mais ils sachent que je suis étrangère. Alors quand ils me demandent où est-ce que je suis, s'ils sachent que je suis syrienne, certains me traitent d'une façon pas bien.
Par exemple ?
Par exemple, une fois, j'ai monté dans un taxi, c'était 11h du soir, j'ai eu lieu de me prendre à ma maison. Il m'a dit, vous êtes d'où ? Je dis, je suis syrienne. Descendez, je ne vais pas partir là-bas. Et il n'a pas considéré que je suis une fille, toute seule dans le soir, et c'est 11h du soir, il m'a dit de descendre du taxi. Mais dans l'autre côté, il y en a d'autres qui sont vraiment très gentils, qui sont vraiment très coopératifs, et certains qui sont vraiment sympathisent avec nous. Mais il y en a d'autres, ça me blesse beaucoup si une personne me traite d'une façon raciste seulement parce que je suis syrienne.
Donc vous avez le sentiment que vous êtes un peu piégée ici ?
Oui, par exemple, personnellement, mon passeport va expirer dans un an. J'aime la Turquie, j'aime Istanbul, c'est la meilleure cité que j'ai visitée. Mais parce que mon passeport va expirer, je ne veux pas rester ici. Je me sens comme prisonnier si je ne peux pas partir dans un autre pays parce que seulement je n'ai pas un passeport.
C'est le passeport syrien ?
Oui, bien sûr, c'est le passeport syrien.
Donc vous ne pouvez pas le renouveler évidemment à Damas ?
Oh non, non, c'est impossible pour moi de renouveler mon passeport.
Alors quand le passeport va expirer, il faudra aller voir les autorités turques pour dire « donnez-moi une carte d'identité ».
C'est une carte de réfugié et je ne veux pas avoir ça. Parce que je ne peux pas quitter ici, seulement parce que je n'ai pas un passeport. Ce n'est pas facile vraiment de rester seulement en Turquie et ne pas pouvoir sortir. Et si à n'importe quel moment quelque chose va arriver ici, on ne peut pas garantir. La Turquie est connue pour avoir des coups d'État. Et c'est connu qu'il n'y a pas une stabilité politique. C'est vrai, ça fait 10 ans que les choses, ça marche bien. Mais en vérité, j'ai peur, vraiment j'ai peur.
Et pourquoi vous ne passez pas par le HR ?
J'ai essayé, ils m'ont appelé la semaine dernière seulement. Ils m'ont dit, étant donné que la Turquie a fourni une protection temporaire pour les Syriens, on ne peut rien faire pour vous, on ne peut pas vous aider pour avoir un asile dans un autre pays européen. Mais je lui ai dit, mais mon passeport va expirer. J'ai dit, je sais, désolé, on ne peut rien faire pour vous.
Donc là, vous êtes vraiment dans le piège turc.
C'est pas un piège turc, la vérité c'est un piège syrien parce que le gouvernement syrien refuse de renouveler les passeports des Syriens seulement parce que nous sommes contre lui et c'est ça, personne ne veut faire rien du tout pour les Syriens.
Merci Sarah, bonne chance.
Merci à vous également.
Şu anda mesel gündeme baktığınızda gündemde sadece DAEŞ'in ve sadece Aynel Arap yani diğer adıyla Kobani kasabasının olduğunu görüyorsunuz.
Pour le président Erdogan, l'ennemi numéro 1 n'est pas l'organisation de l'État islamique, mais le PKK, considéré comme une organisation terroriste. La bataille de Kobané, où la branche syrienne du PKK est en première ligne face aux djihadistes de Daesh, a suscité l'incompréhension et la colère des autorités d'Ankara. Le président Erdogan n'a toujours pas compris pourquoi la coalition internationale avait concentré tant d'efforts militaires sur cette ville qui n'a rien de stratégique selon lui. Depuis 2012, la Turquie et le PKK avaient pourtant lancé un processus de paix. Mais la crise syrienne et la bataille de Kobané ont chamboulé l'agenda politique. Le monde a redécouvert la question kurde. Nous allons voir Ayşegül Doğan. Elle est présentatrice. Elle travaille dans la principale chaîne de télévision kurde en Turquie. Ayşegül Doğan, vous travaillez à IMC. C'est quoi ? C'est une chaîne kurde ?
C'est une chaîne qui fait sa diffusion en langue turque. Donc je pourrais dire que c'est une chaîne démocrate plutôt, qui essaie d'utiliser la langue de la paix en journalisme, ce dont la Turquie a besoin vraiment en ce moment, surtout. Nous touchons beaucoup de spectateurs en dehors de Turquie. Spécialement, par exemple, les Alevis qui vivent en Europe, les Kurdes qui vivent en Europe, les Turcs qui vivent en Europe. À mon avis, quelques millions de spectateurs nous touchons, y compris aussi à l'intérieur de la Turquie.
Et là, vous avez un programme. Et comment il s'appelle ?
Mon programme s'appelle Gündem Müzakere, ce que veut dire la négociation. Müzakere, négociation.
La négociation de quoi ?
Négociation de tous les sujets sur lesquels on ne peut pas négocier, on va dire, mais particulièrement la question kurde, c'est aussi l'actualité de la Turquie, parce qu'on parle aujourd'hui d'un processus de la paix.
Donc là, vous allez en studio, vous allez vous maquiller ?
Oui, je vais me maquiller, en plus je vais passer en studio. J'ai aussi ce soir 5 participants, on va parler de la question kurde, donc on va discuter ça.
Maksimum 5. Eysha Gül, l'émission va se terminer. Il semble que vos invités ne soient pas très optimistes sur le processus de paix entre les Kurdes et les Turcs.
Oui, la plupart n'étaient pas optimistes, mais je ne pense pas que ce soit au point mort, parce qu'on sait que les conflits de ce type, dans le monde aussi, a des fois des blocages. En Irlande aussi, on a vu qu'il y a eu des choses qui ressemblent aujourd'hui en Turquie aussi.
Est-ce que la crise syrienne, avec notamment la bataille de Kobané, ça a changé la donne pour les Kurdes, est-ce que ça, c'est un tournant? Les caméras se sont braquées sur Kobané. Est-ce que ça change quelque chose?
À mon avis, depuis le début, la bataille de Kobané et la crise syrienne étaient un facteur très important dans ce dialogue. Pour l'opinion publique de la Turquie et pour l'opinion publique internationale, c'est vrai que c'est devenu pour eux une projection à pouvoir voir ce que c'est les Kurdes, le PKK et tout ce mouvement de 40 années. Donc pour les Kurdes, ce n'est pas nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas Kurdes et qui n'ont pas suivi les Kurdes jusqu'à aujourd'hui, pour eux, c'est nouveau, c'est une surprise.
Et quand Erdogan dit qu'en gros, l'ennemi numéro un, c'est le PKK, qu'il qualifie de terroriste, et que finalement, l'État islamique, Daesh, est l'ennemi numéro 2 ou 3, ça vous choque ?
Ça avait choqué les Kurdes, mais aujourd'hui, Erdogan aussi dit que le Daesh,
l'État islamique,
est une organisation terroriste. Ils le disent. Même s'il y a des doutes pour les Kurdes auprès des pratiques concernant l'État islamique, le passage des frontières, qu'on en a parlé beaucoup dans la presse internationale aussi. Mais je dirais encore, les Kurdes de Turquie, surtout, ont l'habitude de voir et d'entendre des choses comme ça. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive.
Et vous êtes quand même optimiste malgré tout ?
Écoutez, je préfère être optimiste malgré tout, parce qu'à mon avis, les Kurdes, les Turcs, les Arméniens, tous ces peuples et des ethnicités différentes qui vivent en Turquie, aussi en Syrie et en Irak, et en Kurdistan d'Irak, n'ont pas d'autre chance que de faire la paix. Autrement, j'ai bien peur qu'il y aura une guerre régionale qui pourra changer beaucoup plus de choses que nous parlons aujourd'hui.
Je m'appelle Ali Bayramoglu, je suis finalement professeur d'université, chroniqueur à Yeni Shafak. Yeni Shafak, c'est un journal pro-gouvernemental, mais j'ai une position plutôt dite libérale. Je ne suis pas islamiste, mais j'écris dans ce journal.
Depuis 4 ans, il y a un conflit en Syrie qui ensanglante le pays. La Turquie, et notamment le président Erdogan, qui était très ami avec Bachar al-Assad avant les événements, finalement, au bout d'un moment, a décidé de rompre. Est-ce que vous avez le sentiment que le président Erdogan et la diplomatie turque ont été clairvoyants ?
Ils n'étaient pas clairvoyants, non. Je crois que la Turquie qui comptait voir tomber ça dans quelques mois, et ceci n'est pas réalisé finalement, la Turquie s'est trouvée tout seule.
On a l'impression, vu d'Occident, vu de France, vu d'Europe, que pour le pouvoir turc, entre guillemets, l'ennemi numéro un, c'est Bachar, c'est le PKK, et l'État islamique Daesh, ils viennent un peu en 3e ou 4e position. Est-ce que ça prête pas à des doutes, à des inquiétudes, et c'est ce qui pose peut-être problème?
Oui, bien sûr, mais vous savez, chaque pays a sa façon de voir les choses. La Turquie, si je sais bien, il dit ça. Le grand problème, le pôle du problème, c'est Syrie. Une fois qu'en Syrie, il n'y a pas d'autorité, il y a un chaos, il y aura toujours de ce type d'énergie néfaste qui va sortir par-ci, par-là. Donc pour l'empêcher, il faut avant tout régler le problème de Syrie. Donc il n'y a pas une hiérarchie, il y a plutôt un raisonnement, à mon avis, logique. Parce que ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas dire que c'est la faute de Turquie, non. Quand même, c'est la printemps arabe, c'est le régime Assad, etc. S'il y a un échec, ce n'est pas seulement la politique turque, mais ce sont les conditions ou bien la conjoncture, les conditions politiques de la région. C'est quand même, il faut être un peu juste.
Je me souviens quand même que M. Ahmet Davutoğlu avait dit au début de la crise syrienne, la Turquie ne pourra pas accepter plus de 100 000 réfugiés. On en est à 1 million, peut-être 1 million et demi.
Non, mais c'est ça.
Comment ils vont gérer ça? Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement, ça?
Bien sûr, mais c'est ça le problème.
Parce que là, on a l'impression qu'ils sont piégés, les Turcs. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs frontières, ils ont parié sur une chute de Bachar
Al-Assad. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, les Turcs? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, les Turcs? S'il y a milliers de personnes qui viennent devant votre porte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si la France était dans la même position, si la Suisse était dans la même position, d'après d'ailleurs le traité international, vous êtes obligé de les accepter. Hein. C'est une question humaine avant tout, ce n'est pas une question politique. Bon, c'est une obligation. La Turquie, bien sûr, pouvait dire non. Qu'est-ce qui allait se passer? Il y aura des massacres. En tout cas, la responsabilité allait revenir encore sur la Turquie. Donc, ce n'est pas un jeu, ça. En plus, ce qui vient en Turquie, ce sont les voisins des Kurdes. Ce sont leurs amis ou bien ce sont leurs parents qui habitent juste en face. Donc la politique turque ici était, dès le départ, a une certaine vertu, à mon avis.
Une dernière question sur justement la conséquence de la crise syrienne en Turquie. On voit, il y a eu les réfugiés, il y a eu les Kurdes. Est-ce que ça a aussi des conséquences politiques sur le pouvoir d'Erdogan? Parce que là, on voit bien qu'il est coincé. Est-ce qu'il y a des conséquences ou c'est complètement déconnecté?
Non, je crois que ces problèmes-là, ils n'ont pas un poids spécifique pour basculer, si vous voulez, pour déséquilibrer le pouvoir d'Erdogan. Non. Le pouvoir d'Erdogan est assez solide et bientôt il y aura des élections où il va avoir au moins 50% des votes. Là, il n'y a pas de problème, sauf le problème kurde. Le problème kurde, c'est un problème assez spécifique. Il est nourri de la région, parce qu'on a un processus de paix. Ce processus de paix, c'est un grand pas. Ils sont en négociation avec Öcalan. Ils le disent, c'est clair, c'est déclaré. Mais les Turcs attendent ce processus de négociation, une sorte de vaporisation du problème. Tandis que les Kurdes, ils veulent une autonomie. Et aujourd'hui, il y a un grand blocage, mais ils vont dépasser ce blocage sans doute.
En ouvrant sa frontière avec la Syrie, la Turquie a pris un risque politique et sécuritaire qui aujourd'hui est en train de se retourner contre elle. Afflux massif de réfugiés qui ne repartiront pas de sitôt, réveil de la question kurde, enracinement de mouvements djihadistes dans le sud-est du pays, ces mauvais calculs placent aujourd'hui Ankara dans une position très inconfortable. Kadri Gürsel, chroniqueur au journal Milliyet, considère que la Turquie a joué les apprentis sorciers dans la crise syrienne.
Ils ont intentionnellement négligé la sécurité frontalière pour pouvoir assurer le passage des djihadistes, pour pouvoir y envoyer des aides, des logistiques. Et aussi, ils ont, au premier mois de la crise, encouragé l'arrivée des réfugiés syriens, pour engendrer une crise de réfugiés, pour faire tomber le régime, pour pouvoir revendiquer la création des zones tampons en Syrie, et pour aussi créer l'attention de la communauté internationale, pour pouvoir mobiliser l'Alliance occidentale dans cette direction. Donc, la politique étrangère de la Turquie s'est remarquée par ses prises de position sectaires, pro-sunnites. Dans la crise syrienne, la Turquie a perdu toute sa neutralité et ils ont perdu tous leurs moyens de prendre un rôle dans un probable processus politique qui est maintenant le seul choix. L'autre question qui n'est pas encore visible, mais qui peut être visible d'une manière très, très dangereuse, c'est que la Turquie qui avait été ouverte au passage des djihadistes aussi s'est fait vulnérable à toute menace djihadiste. Et maintenant, il y a des réseaux localisés dans la Turquie, car il y a plusieurs centaines et même des milliers de djihadistes turcs qui sont allés combattre le régime en Syrie, et ils vont rentrer un jour. Donc, et aussi tout au long de la frontière, commençant par Alexandrette jusqu'à Hakkari, 1400 kilomètres tout au long de la frontière, il y a soit des proto-États ou bien des États terroristes. Donc, c'est une frontière qui a été vaporisée, consciemment à l'époque. Et la Turquie et la Syrie s'intègrent d'une manière très toxique.
La Turquie dans le piège syrien. C'était un reportage de Christian Chesneau, prise de son Patrice Klein, mixage Alain Joubert. Didier Billion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur adjoint de l'IRIS. Vous êtes un très bon connaisseur de la Turquie. C'est pour cela que nous vous avons invité ce matin après ce reportage. Pensez-vous que les autorités turques, le président Erdogan, le gouvernement turc, se sont fourvoyés face à cette crise chez leurs voisins syriens ?
Oui. Je pense que le titre de votre reportage est véritablement le bon terme, c'est le piège. Le piège, il s'explique par une raison très simple, c'est que les autorités politiques turques, dès le début de la crise syrienne, sont parties sur une fausse direction. Ils ont considéré, ils l'ont dit, ils l'ont expliqué, ils l'ont proclamé, que les jours de Bachar al-Assad étaient comptés. Cette appréciation totalement erronée, mais que par ailleurs nous partageons.
Qu'ils n'étaient pas les seuls à faire.
Absolument. Les a totalement fourvoyés parce que tout à leur obsession de vouloir faire chuter le régime de Bachar el-Assad, ils n'ont pas hésité, et c'est très bien expliqué dans votre reportage, à aider les différentes factions de la rébellion syrienne. Mais au vu du chaos qui prévaut désormais dans ce pays, et c'est une loi de l'histoire, ce sont les éléments, les organisations, les groupes les plus radicaux qui ont su émerger, s'affirmer et s'imposer aux autres parties de la rébellion syrienne. Et donc cela aboutit à ce que cette obsession de faire tomber le régime de Bachar a entraîné le gouvernement turc à aider, y compris les éléments les plus extrémistes, Al-Nosra, État islamique, etc. Et aujourd'hui, le piège s'est refermé. C'est-à-dire que l'organisation État islamique a pris son autonomie, n'est plus contrôlable par personne, et cela risque de se retourner dans le contraire des intérêts turcs eux-mêmes. Alors évidemment, cette erreur d'appréciation initiale, elle a été partagée par de nombreuses autres capitales, dont la France, dont Paris, etc. La grande différence, c'est que nous sommes à 4-5 000 km de la frontière syrienne et que pour leur part, les Turcs ont à peu près 1 000 km de frontière commune avec la Syrie, ce qui rend la gestion de cette délicate situation un peu plus compliquée. Donc nous n'avons pas de leçons à donner aux autres, mais véritablement le piège est le bon terme. J'ai lu dans la presse française à de maintes reprises qu'il y avait un double ou un triple jeu de la Turquie. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ils ont une politique totalement assumée. On peut la critiquer, mais elle est assumée. Mais par contre, elle s'est retournée en son contraire.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la Turquie semble quand même un peu isolée. Il y a des reproches qui lui sont faits par les pays occidentaux, notamment.
Oui, mais par exemple, un des reproches qui revient régulièrement, c'est le fait que la Turquie, notamment à propos de Kobané, n'ait pas voulu intervenir au sol, militairement. Alors qu'ils sont évidemment à quelques centaines de mètres de ce village de Kobané, de ce bourg de Kobané. Le reproche est difficile à entendre parce que nous-mêmes, membres de la dite coalition anti-État islamique, ne voulons pas, ni les Américains, ni les Anglais, ni les Allemands, etc., organiser une opération militaire au sol. Donc il est toujours plus facile de critiquer les autres sans vouloir soi-même mettre en œuvre les mesures que l'on préconise. Ceci étant, il est vrai que la politique extérieure et la politique régionale turque tanguent un petit peu. Cette Turquie s'était probablement fait quelques illusions il y a entre 5 et 10 ans. Elle s'affirmait incontestablement comme une puissance centrale. Je crois que c'est toujours le cas. Ceci étant, elle ne peut pas gérer tous les conflits. En tout cas, elle ne peut le faire seule. Et d'ailleurs, on voit que les appels réguliers de la Turquie à la dite communauté internationale pour organiser une riposte à la hauteur montrent les limites de la puissance turque, même si elle est avérée.
Du coup, l'image de la Turquie est un peu troublée. On se demande un petit peu quel rôle maintenant peut jouer ce pays.
Oui, c'est une image troublée. Ça, c'est le produit des contradictions de la Turquie, parce qu'à la fois, on vient de l'évoquer, c'est une puissance qui s'est incontestablement affirmée au Moyen-Orient, mais dans un jeu de rivalité avec quelques autres puissances, notamment les puissances du Golfe, notamment l'Iran, dont on peut considérer que ce pays va revenir sur la scène régionale et internationale, dont la Russie, bien évidemment. Or, la Russie et l'Iran sont des cas intéressants parce que sur le dossier syrien, on sait que Téhéran et Moscou défendent une ligne politique radicalement opposée à celle d'Ankara, mais qu'en même temps, Ankara ne peut se disjoindre trop de ces deux capitales, de ces deux pays, parce qu'il y a un besoin fort en hydrocarbures. Et il y a 10 jours, quand Poutine est venu à Ankara visiter son homologue Erdogan, il y a eu une décision politique infiniment importante sur la question du gazoduc qui désormais va arriver en Turquie au lieu d'aller en Bulgarie, puisque la Russie est soumise aux sanctions de l'Union européenne. Les Russes ne l'ont pas apprécié, on peut le comprendre. Et donc, en réalité, il y a une volonté commune de faire aboutir un certain nombre de dossiers économiques au-delà de leur divergence politique. Donc, c'est un jeu infiniment compliqué pour la Turquie, mais finalement, ils ne s'en sortent pas si mal, sauf à propos du dossier syrien, où, pour reprendre l'expression, il y a un piège qui s'est refermé.
Alors, on l'entend dans le reportage, cette crise syrienne, elle ravive aussi la question kurde, dont on réalise qu'elle est loin d'être réglée.
Oui, j'ai une toute petite nuance avec votre reportage qui parle du réveil de la question kurde en Turquie. Non, il n'y a pas de réveil parce que cette question kurde reste, à mon avis, le défi principal de la Turquie. Si on considère que la Turquie a connu sa transition démocratique après la Seconde Guerre mondiale, donc ce n'est pas d'hier, et qu'en dépit de la récurrence des coups d'État en 1960, 71, 80, etc., il y a un régime parlementaire qui s'est impliqué, il n'empêche, cette démocratisation de la société turque ne pourra aller à son terme si elle ne parvient pas à régler la question kurde. Et nous savons qu'elle est compliquée, cette question kurde. Il y a une guerre qui a été déclarée par le Parti des travailleurs du Kurdistan en 1984. Donc il y a maintenant 30 ans, plus de 30 ans. Cette guerre a entraîné environ 45 000 morts. Donc c'est un défi, mais le piège là aussi qui s'est refermé, c'est qu'on ne peut pas uniquement gérer la question kurde comme une question antiterroriste. Même si la lutte contre le PKK est éventuellement nécessaire, une solution militaire est impossible. Il faut une solution politique. C'est d'ailleurs ce que les autorités d'Ankara ont compris, puisque comme vous l'évoquez dans le reportage, il y a un processus difficile, compliqué de négociation, un processus de résolution, dit-on là-bas, donc un processus de paix, qui a été mis en œuvre avec Ankara il y a maintenant 2 ans, quasiment jour pour jour.
Qui a l'air un peu quand même gelé pour le moment.
Incontestablement, on avait eu beaucoup d'espoir, notamment quand le 21 mars 2013, c'est le jour de la fête, le nouvel an kurde, comme on dit, Nevroz. Le 21 mars, le leader charismatique du PKK avait appelé à un cessez-le-feu. C'était extraordinairement positif. Sauf que depuis lors, il y a eu une crise sociale et politique en Turquie au printemps 2013, qu'il y a eu ensuite les affaires de corruption de pots de vin qui ont quand même largement éclaboussé les autorités politiques, qu'il y a eu ensuite les élections municipales au mois de mars dernier, qu'il y a eu les élections présidentielles en août dernier. Donc tout cela, évidemment, à tort probablement, mais a mis la question kurde au second rang des priorités de l'agenda politique. Ben, c'est un tort, parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il n'y a rien de plus important que de régler à la fois la question kurde à l'intérieur de la Turquie, et donc en Syrie et en Irak.
Alors, sur la question intérieure, justement, le pouvoir de l'AKP, le pouvoir d'Erdogan est solide, mais il est contesté. Est-ce que cette crise syrienne, ses conséquences, peuvent avoir des conséquences politiques internes en Turquie ?
Non, je ne le pense pas. Je pense que ces deux éléments dissociés, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a eu un sondage d'opinion au début de l'année 2014 qui indiquait que près de 70% de la population, des sondés en tout cas, critiquait la gestion turque de la crise syrienne. Mais au mois d'août dernier, Erdogan a été élu avec plus de 50% dès le premier tour. Donc cela signifie que son électorat, sa base sociale lui fait confiance pour un certain nombre d'éléments, dont les progrès économiques incontestables qui se sont manifestés depuis 10 ans, mais que sur la question précise de la gestion de la crise syrienne, il y a un désaccord dans son propre électorat. Cela n'entache pas la véritable popularité dont il jouit actuellement en Turquie, alors pour des raisons diverses c'est varié, mais notamment les résultats économiques.
Une dernière question sur l'armée, dont on ne parle plus trop, mais dont on sait qu'elle a eu un rôle politique important en Turquie par le passé. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça ?
L'armée est très très très discrète. C'est-à-dire que l'armée, comme vous l'indiquez, qui a eu un rôle politique très important au cours de plusieurs décennies depuis la proclamation de la République de Turquie, est aujourd'hui, c'est une image que j'utilise souvent, comme un boxeur groggy au milieu du ring, c'est-à-dire qu'elle a été considérablement affaiblie, qu'il y a eu un bras de fer entre l'AKP, le parti de M. Erdogan, et l'institution militaire, et qu'à ce jour, c'est incontestablement le pouvoir civil, élu, légitime, qui a remporté la victoire.
Merci Didier Billion. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe, attachée de production Christine Kern. On se retrouve la semaine prochaine avec un reportage en Indonésie, 10 ans après le tsunami qui avait frappé plusieurs pays d'Asie. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bon dimanche.